Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1er. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et on va se focaliser sur le verset 2 à 4, mais on va lire le chapitre en entier pour se remettre le thème de ce chapitre. La lettre aux Hébreux, chapitre 1. Commençons au verset 1, et voici la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » ou encore « Je serai pour lui un père » et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et c'est la parole de Dieu. Croire dans le Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de remarquable. Et c'est encore plus vrai pour les premiers chrétiens, particulièrement vrai pour les Juifs qui n'avaient pas personnellement connu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui, par le témoignage des premiers croyants, sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Et on peut imaginer le genre d'argument que les incrédules, et en particulier les Juifs incrédules, auraient utilisé pour les dissuader de leur nouvelle foi. Ils auraient fait remarquer, par exemple, que Jésus n'était qu'un homme, le fils d'un pauvre menuisier d'un village reculé de la Galilée. Ils ont peut-être fait écho aux commentaires de Nathanaël. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ils auraient souligné que c'était une période d'instabilité, de passion, et que cet homme, Jésus de Nazareth, n'était qu'un des nombreux dirigeants zélés. Et pire, ou plus dans leur argumentation, son exécution humiliante comme le pire criminel sur la croix a prouvé son échec selon eux. Que, en tant que Messie, c'était un homme décent. Mais le vrai problème, c'était les disciples fanatiques qui ont fait des affirmations bizarres au sujet de sa résurrection et qui ont commencé ce mouvement qui a transformé le monde. Et si c'était le genre d'argument auquel les premiers chrétiens d'origine juive ont été soumis, c'était un argument qui était fort, qui pouvait être très puissant. D'autant plus que, croire dans le Seigneur Jésus-Christ venait avec un prix qui était cher. C'était souvent l'exclusion de la société juive, peut-être même la persécution violente. Et beaucoup auraient pu reconsidérer tout cela. Et l'Épître aux Hébreux a été écrite à cause de ce genre d'oppression. À cette époque, comme aujourd'hui, croire au Seigneur Jésus-Christ a un prix. On ne peut pas être chrétien sans porter sa croix, sans souffrir aux mains de ce monde. Et par conséquent, il faut, et il fallait, et il faut encore, que ça vaille la peine de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que l'auteur de cette lettre aux Hébreux veut faire comprendre à ses lecteurs. Il sait que si on perçoit le Seigneur Jésus dans la merveille de sa personne, la merveille de son œuvre en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur, que Rédempteur, au lieu de douter, de trembler de peur, on répondra avec ces paroles d'un cantique qu'on chante régulièrement. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Puis le troisième couplet dit ceci. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. Mais je sais. Je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour par sa main meurtrie. Gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. On a vu la semaine dernière, la révélation autrefois par les prophètes, qui était incomplète, qui attendait quelque chose de meilleur, qui est venue dans la révélation finale pendant le Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 2 et 3 contiennent cette déclaration concernant la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Et le nombre semble délibéré, parce que dans les versets 5 à 14, il y a 7 citations de l'Ancien Testament qui sont attribuées au Seigneur Jésus-Christ. Et 7, on le sait, c'est le nombre de la perfection, de l'achèvement, de la plénitude. Et c'est le point que veut souligner l'auteur de cette lettre. C'est la suprématie parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et les 7 énoncés que nous avons dans ces versets 2 et 3 peuvent être organisés selon les lignes des 3 grandes fonctions de l'Ancien Testament qui sont parfaites, qui sont accomplies en Jésus-Christ. La fonction de prophète, la fonction de sacrificateur et la fonction de roi. Et c'est une façon très utile, très biblique de penser à notre Seigneur de cette manière. Il est prophète parce qu'il nous révèle parfaitement Dieu. Il est sacrificateur parce qu'il s'est offert pour nos péchés, pour nous purifier. Et il intercède maintenant auprès de Dieu. Il est notre roi. Il règne maintenant au ciel, mais il règne aussi sur nous comme notre Seigneur souverain. Et c'est avec ce dernier point que l'auteur commence sa proclamation au sujet de la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le véritable roi. C'est le premier point. Au verset 2, il dit, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Et là, on a les deux premières des 7 déclarations. On voit le Seigneur Jésus comme Seigneur à la fois dans sa personne, mais aussi dans son œuvre. D'abord, il est établi héritier de toutes choses. Et cela découle du fait que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils unique du Père. En Israël, c'était le Fils aîné qui avait le droit à l'héritage. Et cela signifie qu'en tant qu'héritier, toutes choses lui appartiennent déjà en principe, comme elles lui appartiendront réellement à la fin. C'était l'engagement de Dieu le Père, c'était son but dans la création, que son Fils soit glorifié en recevant toutes choses. C'est aussi le but ultime de notre rédemption. Un commentateur écrit, son héritage, et la compagnie innombrable des rachetés et de l'univers renouvelé par son œuvre triomphante de réconciliation. Et l'auteur poursuit, il dit, par lui, il a aussi créé l'univers. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Seigneur et Roi à cause de son rôle dans la création. Non seulement le monde a été créé pour lui, mais il a été fait par lui. Il peut y avoir difficilement une revendication plus forte pour la seigneurie que cette réalité. Si on est celui qui a fait quelque chose et pour qui cela a été fait, alors on est le seigneur légitime de cette chose. Et c'est le cas pour le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit la même chose quand il écrit aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Et l'auteur de la lettre aux Hébreux continue. Il dit que même maintenant, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Les croyants juifs qui ont reçu cette lettre pour la première fois étaient, rappelez-vous, tentés de renoncer à Christ et de retourner au judaïsme. Mais le Seigneur Jésus-Christ accomplit, il incarne en lui-même tout ce que la fonction de roi a toujours signifié en Israël. Il est le véritable roi, le Seigneur de tous. Les fidèles en Israël sont ceux qui l'adorent, sont ceux qui le servent. Et nous devons embrasser la même vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, il est roi sur son peuple, il est roi sur l'Église. Mais peu de gens le pensent au Seigneur de cette façon. Quand le Seigneur marchait sur cette terre dans son humanité, il n'avait pas un habit de roi. Il ne ressemblait pas à un roi. Il n'est pas monté sur un beau cheval blanc. Sa venue n'a pas été annoncée par des trompettes. Il n'a pas siégé dans un palais d'or. Beaucoup de gens se sont moqués de lui. Ponce Pilate a même dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Ce n'est pas tant une question plutôt qu'une provocation. Le Seigneur, rappelez-vous, lui a répondu, « Mon royaume n'est point d'ici-bas. » Est-ce que cela veut dire que si on doit respecter les dirigeants terrestres, on peut se permettre d'ignorer le royaume du Seigneur Jésus étant donné qu'il est simplement spirituel? Le commentateur répond, rien n'est plus éloigné de la vérité. Car lorsque nous disons que le royaume du Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ce monde, ce que nous disons vraiment, c'est que le royaume du Seigneur Jésus-Christ est du ciel et qu'il a donc une revendication encore plus grande sur nous que les royaumes terrestres que nous connaissons si bien. Au-dessus de ces royaumes est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous bafouons sa royauté, non seulement au péril de notre fortune et de notre vie, mais au péril de nos âmes. Le Seigneur Jésus a été nommé héritier de toutes choses. Ces choses qui ont été faites à travers lui et qui sont maintenant soutenues par lui. Mais on ne peut le voir que par la parole de Dieu et seulement avec les yeux de la foi. Le Seigneur Jésus a été intronisé, non pas sur un trône terrestre, mais à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 3. Et on ne peut le voir que par les yeux de la foi. Et en voyant le Seigneur Jésus-Christ comme le roi, le Seigneur de tout, nous sommes appelés à lui obéir par la foi. Nous pouvons aussi être réconfortés au milieu de nos épreuves, sachant que un jour il viendra manifester son royaume sur toute la création, détruire ses ennemis avec sa puissance, inviter ses serviteurs à entrer dans la joie du royaume. Comme le souligne l'auteur de cette lettre aux Hébreux, un peu plus loin, au chapitre 2, versets 8 et 9, en citant le psaume 8, Il dit, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises à cause de notre incrédulité, à cause de notre peur. Mais par la foi, nous savons qu'il est maintenant couronné de gloire et d'honneur. Et un jour, bientôt, tous les yeux verront, tous les genoux fléchiront, toutes les langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, Philippiens 2. Seigneur Jésus-Christ est le véritable roi. Et ce passage exalte le Seigneur Jésus comme le Seigneur de tous, mais aussi comme celui qui révèle parfaitement Dieu dans toute sa gloire. Et c'est le deuxième point. Le Seigneur Jésus-Christ comme le prophète ultime. Verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. On sait que le soleil est brillant, que le soleil est chaud parce qu'on voit sa lumière, parce qu'on ressent sa chaleur grâce aux rayons qui parviennent sur la terre. Et on profite de cette belle journée aujourd'hui. Et c'est la même chose avec le Fils de Dieu. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu le Père. Sans le Fils, on demeure dans l'obscurité concernant la gloire de Dieu. Mais avec le Fils, on a une révélation parfaite de Dieu. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4 et verset 6, Paul écrit que nous avons la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On ne voit pas Dieu en Christ à travers des dessins qui prétendent représenter ses traits. Encore moins à travers un acteur qui essaye de représenter la façon dont le Seigneur Jésus-Christ a dû être. Mais on voit Dieu en Christ à travers l'enseignement de la parole, au sujet de sa personne, de son œuvre, de son zèle saint, de son amour compatissant, de ses paroles, de ses puissantes et de ses puissantes œuvres de salut. Et en tant que Fils, le Seigneur Jésus est une meilleure révélation que celle qui est venue par les prophètes. C'est une chose de connaître un serviteur élu. On peut apprendre beaucoup sur un maître par ce que l'on voit chez ceux qui travaillent chez ce maître. Mais comme l'explique Martin Lloyd-Jones dans un sermon sur la prière de Jésus en Jean 17. Il dit ceci, « Un serviteur peut être capable de dire tout ce qui est juste au sujet de son Seigneur et de son Maître. Il peut le connaître bien et intimement, mais il ne peut jamais le représenter de la façon dont le Fils peut le faire. Le Fils est une manifestation du Père en étant ce qu'il est. Ainsi, notre Seigneur lui-même, alors qu'il était ici sur terre, a représenté et manifesté le nom de Dieu d'une manière incomparable et plus grande que toutes les autres, parce qu'il est le Fils de Dieu. » Et dans Jean 1, verset 18, on a cette affirmation frappante. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Le Seigneur Jésus est le prophète parfait, celui qui révèle pleinement la gloire de Dieu, parce qu'il n'est pas simplement semblable à Dieu le Père, mais il est aussi l'empreinte de sa personne. Le mot grec que l'auteur utilise ici, c'est le terme caractère. Et on a le même terme en français. Et ce mot fait référence au cachet, à l'empreinte qui est faite par un poinçon ou un sceau. Le meilleur exemple, c'est la pièce de monnaie sur laquelle est l'empreinte du visage d'un souverain. Et de la même manière, le Seigneur Jésus porte l'image, l'empreinte de Dieu. L'apôtre Paul dira, il est le Fils est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, verset 15. Et le point que l'auteur veut faire est celui de la fiabilité avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ révèle Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle révélation. Il y a une correspondance exacte en ce que nous voyons en Jésus-Christ et ce qui est vrai de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit en Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » De plus, le Seigneur Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. Le Seigneur exerce la puissance divine parce qu'en tant que Fils de Dieu, il est pleinement Dieu. En tant que véritable dernier grand prophète, il est capable non seulement de révéler la volonté de Dieu, mais aussi d'établir la volonté de Dieu sur la terre. Et cette description du Seigneur Jésus-Christ en tant que dernier véritable, le seul vrai prophète, nous aide à mieux comprendre la relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau. La raison pour laquelle les chrétiens d'origine juive ne devaient pas retourner au judaïsme, ce n'est pas que l'Ancien Testament était faux. Non. Par la longue lignée des prophètes, Dieu a donné à son peuple la révélation au sujet du salut. Mais le message principal de cette révélation était que le Sauveur allait venir. Que le véritable prophète allait non seulement pointer, diriger les regards vers le salut, mais qu'il allait accomplir le salut. Ésaïe, par exemple, a parlé d'un enfant qui allait naître, d'un fils qui serait donné. Il serait appelé « Admirable conseiller ». Ésaïe 9, verset 6. Et plus loin, chapitre 11, Ésaïe écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. » Façon d'être un vrai disciple d'Ésaïe et des autres prophètes était et est encore de croire leur message, de recevoir par la foi celui pour lequel ils ont prié, celui qu'ils ont attendu pendant tant de siècles. De croire en ce Fils que Dieu nous a donné. Il est le roi, il est le Seigneur de tous. Nous devons l'écouter comme le véritable prophète qui révèle parfaitement la gloire de Dieu. Mais il y a une troisième fonction que le Seigneur Jésus perfectionne et complète. C'est la fonction du sacrificateur. Troisième point, Seigneur Jésus-Christ comme le parfait sacrificateur. Et sans le ministère du Seigneur Jésus-Christ dans cette fonction de sacrificateur, on peut s'incliner devant Dieu. On peut écouter Dieu, mais on ne pourra jamais être accepté par Dieu et s'approcher de sa présence sainte. Et par conséquent, l'auteur de cette lettre nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable, le sacrificateur parfait qui a fait l'expiation pour nos péchés. Il écrit, verset 3, « Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Ce thème de la fonction sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ va occuper une grande place dans cette lettre aux Hébreux et c'est un point important qu'il faut saisir. Le Seigneur Jésus-Christ accomplit cette charge sacerdotale parce qu'il offre le seul vrai sacrifice pour ôter les péchés. C'est ce que l'ange a dit à Joseph. Avant même la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 21, « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Oui, le Seigneur Jésus règne en nous par son esprit. Il nous parle en tant que prophète par l'Évangile, mais ces choses ne sont possibles que parce que, en tant qu'agneau de Dieu, le Seigneur a donné sa vie pour nos péchés. Il a fait la purification pour nous sur la croix. Et en tant que véritable sacrificateur, il est allé au ciel pour présenter son propre sang, obtenir le pardon, notre pardon complet, notre pardon final, parfait. Cette septuple proclamation de la suprématie du Fils de Dieu Et complété par cette déclaration au verset 3, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On l'a déjà dit, mais c'est bien de le redire, dans le temple à Jérusalem, il n'y avait pas de siège, pas d'endroit où s'asseoir. Les sacrificateurs ont offert des sacrifices pour la purification du peuple jour et nuit, sans cesse, parce que le problème du péché n'avait pas encore été résolu. Ces sacrificateurs ne sont jamais assis. Mais quand le Fils de Dieu, le véritable sacrificateur, que les sacrificateurs de l'ancienne alliance représentaient, quand le véritable sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, a versé son sang pour nous, son sacrifice expiatoire était celui que tous les autres avaient simplement indiqué. Et le Seigneur, après avoir offert son sacrifice, s'est assis. Parce qu'il n'y a plus d'autre sacrifice à offrir. Son sacrifice est le sacrifice parfait, le sacrifice final. Il a offert son sang précieux, une fois pour toutes. Et si les lecteurs, les premiers lecteurs, voulaient les avantages des sacrifices de l'Ancien Testament, ils ne devaient pas se détourner de Christ. Parce que ces sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient la venue de Christ. Et au lieu de se détourner de Christ, ils devaient s'accrocher fermement à sa mort expiatoire sur la croix pour leur salut. Le Fils de Dieu s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Et puisque c'est un trône, on pense naturellement à sa fonction royale, mais c'est aussi comme notre souverain sacrificateur que le Seigneur Jésus-Christ prend son siège royal dans les cieux. Le roi qui règne sur le trône des cieux est le sacrificateur même qui s'est sacrifié pour notre salut, dont la présence porte ce témoignage éternel que nous avons le pardon parfait en lui. Comme le dit ce merveilleux cantique, à l'agneau sur son trône. Rendons-lui hommage, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Le verset 4 complète ce qui, dans le texte grec, est une seule phrase qui commence au verset 1. Et le verset 4 dit « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Ça semble être une fin de phrase un peu étrange. Il y a deux explications. La première, c'est que la spiritualité juive de cette époque avait une vue excessivement élevée des anges. Les Juifs ont relié les anges aux grands événements de l'Ancien Testament. Ils pensaient que Dieu a donné à Moïse la loi par la médiation d'un ange, que c'était une voix d'ange qui a parlé à Moïse à partir du buisson ardent. L'auteur de cette lettre ne conteste pas les faits, mais il conteste plutôt leur interprétation. Il reconnaît, comme il le dit au verset 14, que les anges sont des esprits que Dieu envoie pour venir à notre aide. Mais le fait que Dieu ait employé des anges ne signifie pas qu'on doit les exalter, comme beaucoup de Juifs semblaient l'avoir fait. Les anges, comme les prophètes, avaient un rôle important dans l'ancienne alliance. Mais le Seigneur Jésus-Christ est le Fils qui a accompli l'ancienne alliance. Il est le Christ, il est le Messie, il est celui qui est oint. Il accomplit les trois fonctions pour lesquelles quelqu'un était oint. Les trois fonctions de l'Ancien Testament, prophète, sacrificateur et roi. Et par conséquent, la seule façon d'accomplir tout ce que l'Ancien Testament enseigne, la seule façon de réaliser tout ce que les pères israélites avaient regardé avec espoir, était de faire confiance au Fils de Dieu, de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Sur le trône des cieux, il est élevé au-dessus même des anges. son nom, c'est-à-dire son titre, sa position, est plus excellent que la leur. Une autre raison possible pour laquelle l'auteur parle des anges, une raison qui résonne avec notre propre environnement spirituel. Les gens sont fascinés par les anges. Les livres sur les anges sont des best-sellers. Beaucoup de personnes se parent de bijoux qui ont une relation avec les anges. La raison est que les gens savent d'une manière ou d'une autre qu'ils ont besoin d'un médiateur avec Dieu. Ils ont besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte vers le ciel, vers la bénédiction de Dieu. Ils ont besoin d'une aide surnaturelle pour leurs problèmes qui seraient autrement insurmontables. Et les gens dans l'Église du 1er siècle, comme les gens aujourd'hui, ont trouvé chez les anges une forme attrayante, non exigeante, d'espérance spirituelle, de réconfort. Et le fait qu'on ne sache pas grand-chose sur les anges les rend encore plus attrayants pour une vénération. On peut remplir les détails comme on veut qu'ils soient. Mais ce passage révèle à propos du Seigneur Jésus-Christ est une cause de bien plus grand réconfort, d'un espoir encore plus grand que l'on ne pourrait jamais obtenir par le culte mystique des anges. Lorsque la Bible présente le Fils de Dieu comme le véritable prophète, le véritable sacrificateur, le véritable roi, Dieu nous montre que Jésus-Christ est et fait tout ce dont nos âmes ont besoin. Il est le Messie. Il est loin, qui a été attendu depuis longtemps, qui entre dans les fonctions de l'Ancien Testament donné par Dieu afin qu'il accomplisse le salut et qu'il puisse sauver parfaitement son peuple. Un commentateur l'exprime très bien en expliquant comment le Seigneur Jésus-Christ comble parfaitement tous nos besoins. Il dit « En tant qu'homme déchu, ignorant, coupable, pollué et impuissant, nous avons besoin d'un sauveur qui est un prophète pour nous instruire, d'un sacrificateur pour expier et intercéder pour nous, d'un roi pour régner sur nous et nous protéger. Et le salut que nous recevons de ses mains comprend tout ce qu'un prophète, un sacrificateur et un roi, au sens le plus élevé de ces termes, peuvent faire. Nous sommes éclairés dans la connaissance de la vérité. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort sacrificielle de son Fils. Et nous sommes délivrés de la puissance de Satan et introduits dans le royaume de Dieu. Tout cela suppose que notre Rédempteur est à la fois prophète, sacrificateur et roi. » Et l'auteur de cette lettre nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est la réponse parfaite, la réponse suffisante de Dieu pour notre bénédiction éternelle. Et la signification de cela pour les lecteurs du 1er siècle, qui étaient découragés, qui voulaient retourner au judaïsme, mais qui est encore valable pour nous aujourd'hui, c'est que si nous avons un sauveur comme celui-là, nous ne devons pas retourner. Nous ne devons pas retourner au judaïsme. Nous ne devons pas le laisser partir. Si on doit perdre son emploi, sa famille, ses biens, même sa propre vie, qu'il en soit ainsi. Le Seigneur dit, Luc 9, versets 24 et 25, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? Gagner Christ, gagner la vie éternelle avec lui est un grand profit, même si nous devons perdre tout le reste à côté. » Ce que ce passage nous dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ nous rappelle non seulement que nous devons nous accrocher à lui dans la foi, mais nous rappelle aussi comment nous pouvons nous approcher de lui dans la foi. Et cela vient de notre compréhension de ces trois fonctions en tant que prophète, sacrificateur et roi. Le Seigneur Jésus-Christ est roi, il est notre roi. Nous devons être gouvernés et nous sommes protégés, dirigés par lui. Nous devons donc nous incliner devant lui, le reconnaître, le couronner, comme dans le dit ce cantique que j'ai cité tout à l'heure. Abandonner tous les autres royaumes, tous les autres dirigeants. Nous soumettre au seul véritable roi. Le Seigneur Jésus-Christ est notre prophète. Nous avons besoin de vérité. Et il est la vérité. Il dit la vérité. Nous devons venir à sa parole, abandonner tous les autres enseignements que nous pouvons entendre dans ce monde qui pourrait nous égarer, qui cherche à nous égarer, et nous soumettre à celui qui est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est notre sacrificateur. Et c'est donc à lui que nous venons pour la purification, pour le pardon. C'est à lui que nous regardons pour l'intercession, pour une réconciliation pleine avec Dieu, le Père. Nous avons besoin et nous devons reconnaître, confesser que nous avons besoin d'être réfugiés, de nous réfugier en lui. Nous avons besoin de ce sang qui a été versé à la croix. Nous avons besoin de son intercession permanente au ciel. Nous devons abandonner toute prétention à un mérite qui nous est propre et reconnaître que notre seul accès dans la présence de Dieu est ce sacrifice qui a été offert une fois pour toutes à la croix de Golgotha pour nous. Et par tous ces moyens, à travers ces trois fonctions de prophète, de sacrificateur et roi, nous devons venir au Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul capable de sauver parfaitement son peuple et de le sauver à la gloire de Dieu le Père. Réjouissons-nous donc que Dieu nous ait donné un sauveur si merveilleux, un sauveur si glorieux, un sauveur si parfait, qui accomplit tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Il est le véritable prophète, il est le véritable sacrificateur. Il est le véritable roi. Que Dieu nous aide à saisir ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.